France Culture.
On ne cesse de me faire remarquer que la vie en Géorgie n'est pas telle que je la peins, que des criminels évadés n'y courent pas les routes pour exterminer les familles, pas plus que n'y rôdent des colporteurs de Bibles en quête de filles unijambistes. Les sciences sociales ont exercé une influence néfaste sur la façon dont le public aborde le roman. Il fut un temps où les lecteurs ne cherchaient qu'à en tirer une morale. Et si naïfs qu'ils fussent, ils l'étaient infiniment moins que les lecteurs d'aujourd'hui, dont les objectifs sont plus limités. Désormais, le roman doit s'intéresser exclusivement au jeu des forces psychologiques, sociales ou économiques, ou à ces menus détails de la vie quotidienne qui ne sont, pour le vrai romancier, que des moyens d'arriver à des fins plus profondes.
Flânerie O'Connor, la part du diable. Une émission de Céline Laurence, réalisée par Gaël Gillon.
C'est une écrivaine... Le mot qui viendrait, c'est violente et réjouissante. Parce qu'en fait, elle est extraordinairement révoltée.
Par les petitesses qu'on ne dénonce pas habituellement.
Exactement, par la mesquinerie, la laideur qu'elle voit... Comme son appareil optique, disons, c'est de ne voir presque que ça. Donc elle voit les comportements ignobles des gens, mais des gens tout le temps, partout. Enfin, l'histoire de l'autobus avec la mère et le fils qui vont au centre d'amaigrissement et la mère qui voit une femme noire qui a le même chapeau qu'elle et qui en meurt d'une crise cardiaque, pour résumer, c'est irrésistiblement drôle. Ouais. On ne peut pas faire mieux.
C'est un auteur, en fait, qui me semble très mal connu en France. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent, est-ce que c'est un homme ou une femme ? Flannery O'Connor, ils ne savent pas. Déjà, ça commence par une ambiguïté incroyable. Donc, j'ai découvert après Faulkner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage Faulkner, on a envie de lire ce qui s'est fait après, de savoir s'il y a eu quelque chose après, tellement c'est énorme. Et en effet, il y a eu d'autres choses après. Et jusqu'à aujourd'hui, les écrivains du Sud sont importants, même si on considère que la grande période du Sud, c'est des années 20 aux années 50. Dans les années 20 aux années 50, il y a cette femme, Flannery O'Connor, qui disparaît très jeune, hein, 39 ans, malade, qui laisse une œuvre qui n'est pas considérable en nombre de volumes, deux romans seulement. Des nouvelles, certes, mais ça ne fait pas une œuvre, par contre, qualitativement et au niveau de la puissance. Voilà, je lis le deuxième roman et je lis les nouvelles. Et là, je me dis, mais waouh, c'est incroyable, c'est une littérature qui est surpuissante. Et je cherche à comprendre pourquoi elle est aussi noire, pourquoi elle est aussi glauque, pourquoi elle est aussi violente. Et je découvre la dimension, évidemment, religieuse. Religieuse parce que l'auteur est catholique et que c'est une chose assez rare dans la littérature américaine.
Flannery O'Connor est une auteure capitale dont l'œuvre reste encore trop confidentielle en France. Romancière, mais surtout novelliste, situant ses intrigues dans un sud violent où le temps pèse sur les hommes et les vastes étendues, elle eut à cœur de dépeindre avec un humour féroce ces moments de bascule où les hommes se sauvent ou se damnent. D'ascendance irlandaise, Flannery O'Connor naît le 25 mars 1925 à Savannah, en Géorgie. Enfant unique, elle est éduquée chez les sœurs, puis dans une école expérimentale, la Peabody High School, où elle se passionne pour le cartoon et l'écriture. Élève brillante, elle étudie la littérature, puis entre à l'université de l'Iowa, où elle intègre les cours du réputé Writer's Workshop de Paul Engle. Épaulée, la dynamique de groupe sied à Flannery O'Connor et ses premières nouvelles sont publiées dans des revues. Installée à New York, Flannery O'Connor écrit « Voyage, quand, à peine 25 ans et alors qu'elle connaît déjà un succès d'estime, elle développe les premiers symptômes d'un lupus, maladie qui a emporté son père quand elle avait 16 ans. Subitement contrainte à l'immobilité, c'est dans la ferme dite l'Andalusia, ferme léguée par son oncle, qu'elle s'installe alors avec sa mère, Regina. Elle ne la quittera plus, sauf pour de rares occasions, et elle y écrira le gros de son œuvre, de 1951 à 1964, année de sa mort. Cette maison, l'Andalusia, Cecilia Duterte, biographe de Flannery O'Connor, s'y est rendue.
Alors c'est une maison dans le Vieux Sud, à la périphérie d'un bourg qui s'appelle Milledgeville, donc qui n'est pas dans la ville mais un peu à l'écart. En fait c'est une ferme, une grande ferme, mais très simple, très modeste, comme l'était Flannery, tout à fait à son image. Et en même temps, c'est un paysage qui est très gai. Alors la ferme en elle-même, elle est blanche, en briques, avec des briques rouges. Voilà, c'est une ferme tout ce qu'il y a de plus, je dirais, classique, entourée alors de poules, de canards, d'oies, de paons, parce que vous savez que Flannery O'Connor était amoureuse des gallinacées, on va dire, elle était vraiment admiratrice de ces animaux, et donc elle était entourée de ces oiseaux. Et puis la ferme à l'intérieur, Flannery O'Connor occupe une chambre au rez-de-chaussée, parce que à cette époque de sa vie, elle est atteinte du lupus érythémateux et donc une maladie très invalidante. Elle ne peut plus monter les escaliers, c'est pourquoi elle s'est installée dans cette ferme.
Marie-Laure Albi, médecin.
Le plus grave dans le lupus, c'est les atteintes du rein, des poumons. Ce sont des atteintes diffuses, puisque c'est une maladie où il y a une forme d'inflammation d'auto-humain, c'est-à-dire que le corps se retourne contre lui-même, et donc il y a toute une espèce de tempête inflammatoire contre les organes de la personne qui est malade.
Les rares témoignages qui nous parlent de Flannery O'Connor, Marie-Laure Albi, ils nous parlent de personnes qui sont très étonnées par son physique lorsqu'ils sont amenés à la rencontrer, parce qu'elle est défigurée justement par son traitement. Est-ce que vous pouvez nous parler des symptômes du lupus érythémateux dont elle souffrait et dont son père a souffert juste avant elle ?
Je pense qu'on faisait aussi allusion au traitement qu'on est obligé d'appliquer dans ces cas-là. Alors, il peut y avoir un faciès lupique, mais c'est surtout, je pense, les corticoïdes qui déforment les personnes, surtout qu'on n'avait rien d'autre. Et donc, on était obligé pendant plusieurs années de prendre des traitements qui, eux, modifiaient la répartition des graisses, l'allure du visage, le psychisme aussi. Ça donne du diabète. Enfin, c'est vraiment un médicament qui était indispensable, sinon la maladie elle-même aurait progressé plus vite, sans doute, mais qui eux-mêmes ont des effets secondaires dans le temps qui sont très importants. Ça donne aussi une fragilité osseuse, enfin, on se casse plus facilement. Donc il y a un certain nombre de conséquences qui font que la maladie plus le traitement, effectivement, modifie profondément la vie de ces personnes qui vivent avec un sérieux handicap. Pour elle, ça a dû être difficile parce qu'elle avait vu l'évolution de son père. Parce qu'il y a des formes différentes de lupus, il y a des lupus plus ou moins graves. Et donc, ça devait être une charge émotionnelle supplémentaire de voir que cette maladie avait emporté son père jeune et donc lui donner le sentiment de l'urgence de s'exprimer, de travailler, de créer, puisqu'elle savait ou pensait que sa vie serait abrégée, ce qui d'ailleurs a été le cas.
La chambre de Flannery O'Connor, elle est presque ascétique en fait. Il y a vraiment le lit, le petit bureau, mais le petit bureau contre le mur, même pas du côté fenêtre. Ses béquilles, parce que la pauvre, elle marchait déjà avec des béquilles. Et puis une petite bibliothèque, enfin vraiment trois fois rien. Et dans sa correspondance, dans ses conférences, etc., on sent qu'elle est très heureuse dans ce lieu. Mais c'est un lieu reclus, hein, quand même, assez loin de tout, on va dire. Elle a effectivement quelques revenus droits d'auteur. Elle fait ce qu'elle appelle des expéditions gagne-pain. Je reprends ces termes. Alors, c'est des conférences, en fait, dans le cadre de salons du livre. Donc, parfois, elle peut quand même se déplacer un petit peu. Donc, dans ce cadre-là, elle gagne un peu sa vie. Mais pour la plupart, c'est quand même grâce au travail de sa mère, Regina, qui donc est à la tête de ce domaine, de cette ferme, et qui, avec deux métayers noirs, fait tourner la ferme, quoi. Et c'est les revenus de la ferme qui font vivre les deux femmes, en fait.
Le roi des oiseaux. Leur attitude à mon égard est devenue à peine plus chaleureuse avec le temps. Si je leur apporte de la nourriture et qu'ils ne peuvent faire autrement, ils condescendent à venir manger dans ma main, mais si j'arrive les mains vides, je suis pour eux un objet parmi d'autres. Et quand je dis « mais » pan, ce possessif ne traduit qu'un rapport contractuel. Je suis une domestique, tenue d'obéir au cri et à l'œil du moindre de ces princes emplumés. En les libérant du cajot, je m'étais écrié « Je veux en avoir tellement que je ne pourrais mettre un pied au dehors sans risquer d'en bousculer un. » Désormais, ce sont eux qui me bousculent à 4 ou 5, daignant à peine me reconnaître. Voilà 9 ans que ces premiers pans ont débarqué. J'ai maintenant 40 becs à nourrir.
Qu'est-ce qu'on trouve de cette ferme, de cette ambiance à l'intérieur de ces nouvelles ?
Dans ces nouvelles, c'est pas tant la ferme que le vieux sud, donc toute la typicité du vieux sud, c'est-à-dire bon, déjà la chaleur. Flannery O'Connor, elle parle énormément aussi de tout ce qui est préjugés raciaux. Hein. Évidemment, on est en plein dans la lutte intégrationniste, on est en plein dans cette grande période-là. Donc, elle parle des notables blancs confis dans leurs préjugés de classe, hein, dont sa propre mère est un peu la représentation, hein. Même si sa mère n'est pas raciste, mais disons que c'est une notable, très consciente de son rang, blanche, elle est encore dans cette optique-là. Et puis elle parle des Noirs, elle parle de l'exploitation aussi, elle parle beaucoup aussi dans ses nouvelles, c'est ça qui est très intéressant, dans ses dialogues, elle utilise les idiomes, il y a beaucoup de typicité dans le vieux sud, et comme évidemment son propos est spirituel, il est même presque religieux, eh bien elle trouve à l'intérieur du vieux sud des gens qui croient en Dieu, puisque le vieux sud, c'est un vieux sud protestant, évangéliste. Alors effectivement, elle est catholique, elle est quand même minoritaire par rapport à cette majorité évangéliste, qui d'ailleurs est très illustrée dans ses nouvelles par cette foi un peu outrée, un peu parodique qu'on peut trouver encore maintenant, hein, dans ce vieux sud, parce qu'effectivement, ces nouvelles, ces romans pullulent de prêcheurs un peu illuminés, de gens qui ont comme ça une foi très manichéenne, une vision très manichéenne du monde. Donc en fait, on retrouve tout ça, finalement, elle décrit ce qu'elle a sous les yeux.
Bruno Corti, auteur du Dictionnaire amoureux de la littérature américaine.
La France, elle est excitée. Pourquoi ? Parce que la littérature américaine est la littérature au départ des grands espaces, de la liberté, mais d'une liberté qui est aussi celle du ton, la liberté d'écrire des choses abominables. Et vous le voyez aujourd'hui avec les auteurs qui ont suivi Flannery O'Connor et compagnie. Cormac McCarthy n'est pas un homme du Sud au départ, mais il devient un écrivain un peu sudiste quand même. Ses écrits sont absolument abominables, souvent. C'est des personnages qui sont toujours en errance, qui sont tordus, qui sont vicieux. C'est des criminels, c'est des tueurs en série. Parce que l'Amérique, elle est violente. Parce que l'Amérique, elle est née à la fois sur un génocide, et aussi on a délogé les gens qui habitaient là. Donc on a délogé les Indiens, et en plus on a fait venir des esclaves. Vous comprenez bien que c'est une littérature qui est née là-dessus.
Et comment est-ce que vous la qualifiez, cette littérature du Sud, et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a ces thématiques qui ressortent ? Pourquoi est-ce qu'on a une différence telle, justement, entre...
Et parce que c'est la littérature de cette Amérique qui a perdu. C'est la littérature du Sud, c'est la littérature des vaincus. C'est la littérature des esclavagistes. Et c'est une littérature qui est passionnante, parce que quand on lit les nouvelles de Flannery O'Connor, on s'aperçoit, comme dans Faulkner, mais plus encore chez elle, qu'on arrive à un point où les Noirs affranchis et les Blancs sont tous des pauvres, ils sont tous au même niveau, ils sont tous dans une espèce de colère, ils sont démunis, et parmi eux, il y a certains blancs qui s'arrogent le droit de parler au nom de Dieu, ils sont prédicateurs, ils sont prêtres, c'est des fous complets, qui n'ont rien compris aux Écritures, qui passent leur temps à citer la Bible mal, pour valider leurs actes, qui sont souvent négatifs, voire criminels.
Et donc le fait d'être du côté des vaincus, en fait, d'être dans le camp des États du Sud, en fait, ça apporte un rapport particulier à la culpabilité, au péché, à ces thématiques ?
Complètement. Elle se différencie de tous les autres écrivains du Sud par l'idée de la grâce.
Lorsqu'elle arrive à l'Andalousia, Flannery O'Connor ne peut plus partir, elle est dans une grande solitude. Comment se passent ces journées et quel livre est-ce qu'elle est amenée à écrire lorsqu'elle y arrive ? Est-ce que c'est le principal de son œuvre ?
Ah oui, le principal de son œuvre s'écrit là-bas. Quand elle y arrive, en fait, elle dit qu'elle a pensé que c'était une mort sociale, et que ça allait même être une mort de l'écriture pour elle, parce qu'elle s'est dit « je vais être tellement seule, je vais plus avoir de matière, en fait, à imaginer et à pouvoir écrire ». Et curieusement, elle se rend compte, très paradoxalement, que c'est l'inverse qui se passe. Finalement, alors elle est chrétienne, déjà, elle accepte
cette fragilité, cette vulnérabilité dans laquelle elle est. Elle l'accepte, c'est même sa résistance, son acte de résistance sera d'écrire envers et contre tout, malgré la maladie. Elle a 2 heures par jour où elle peut à peu près être aux commandes, si j'ose dire. Et donc ces 2 heures-là, elle est à sa table chaque matin et elle écrit. Et finalement, oui, elle se rend compte que cet isolement va au contraire être très fécond et va creuser ce que Maritain, qu'elle avait beaucoup lu, appelle l'habitus de l'art, c'est-à-dire cette capacité à regarder le monde créé, à l'observer avec des yeux d'une grande profondeur pour y rechercher, pour y percevoir le sens sacré. Et c'est exactement ce qu'elle veut faire dans son écriture, en fait, dans ses nouvelles comme dans ses romans. Et finalement, elle dira à la fin que cette maladie, je la cite, est une malchance bénite.
Je crois nécessaire, avant de vous rencontrer, de vous exposer par écrit ma position à l'égard du roman et des critiques que vous lui avez adressées. Je ne peux espérer qu'une chose, que lorsque le roman sera terminé, son sens se dégage plus clairement. Mais je suis déjà en mesure de vous dire que je ne souhaite absolument pas travailler selon vos directives, comme le font les auteurs dont vous m'envoyez les noms. Il me semble que les qualités, ces qualités il y a, que présente l'ouvrage, sont intrinsèquement liées aux défauts que vous mentionnez. Je n'écris pas un roman conventionnel et je crois que la valeur de ce que je dis vient précisément de la singularité de mon expérience. Je ne pense pas pour autant que le texte manque d'objectivité, si c'est bien ce que signifie votre critique, et j'estime que mon rewriting n'a pas contribué à obscurcir le sens. Au contraire, je suis convaincue que ce travail a dégagé le sens, quel qu'il soit, de l'ouvrage. En résumé, je suis ouverte à toute critique, mais seulement si elle se situe dans le cadre de ce que je tente. Sinon, rien ne me fera changer de cap.
C'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, quand on parle des ateliers d'écriture, on est assez, enfin, en tant que critique littéraire, depuis 10 ans, 15 ans, on est assez affligé de voir que les ateliers d'écriture aux États-Unis ont tendance à gommer les aspérités, à faire que tous les romans ou beaucoup de romans qui sortent et qui arrivent en traduction, en gros, n'ont pas véritablement de style. Ça se lit tout seul, c'est pas mal fait. Mais bon, donc, en revenant en arrière, quand on vient à son époque à elle, là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on apprend véritablement, en fait, ces gens-là sont déjà des écrivains. Ils ne font juste que, à mon avis, apprendre quelques petits rudiments.
Et on trouve ça aussi avec le fait qu'elle ait été dans une école expérimentale à la Peabody High School. Et ce que disait son prof dans les cours d'écriture, effectivement, comme vous le disiez, c'est que le but, c'est pas d'apprendre à écrire, c'est de dégager des personnalités.
Exactement. Peut-être que, au départ, l'écrivain ou l'écrivaine n'ose pas certaines choses. Et là, ça permet quand même de dire, voilà, tu peux faire ça. N'aie pas peur de faire ça. Quand on est tout seul, on n'a aucune possibilité de s'exprimer si on n'est pas déjà libre. Donc, je pense que ces expériences-là, pour elle, ont été décisives, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont été importantes.
Geneviève Brisac, romancière.
Je pense qu'il faut l'aborder absolument sans aucun préjugé, sans aucune idée préconçue, parce que dès qu'on commence à la lire, on est totalement envahi par des émotions, des sensations, des couleurs, du bruit, de la violence. Ce sont les violents qui l'emportent, a-t-elle écrit, et ça fait d'elle une écrivaine incroyablement moderne. Et je crois qu'il faut ouvrir les livres de Flannery O'Connor en se disant qu'on va trouver une sorte de contrepoison à tout ce que notre modernité a de destructeur pour l'humain.
C'est-à-dire
que pour elle, chaque individu, et elle en a observé énormément, compte pour lui-même et recèle des trésors de récits, en fait. Elle a une phrase que j'adore, elle dit « Quiconque a dépassé l'âge de 12 ans a assez vécu pour écrire des histoires toute sa vie. » Et elle, je crois qu'il y a quelque chose, j'ai toujours vu comme une espèce de boule de feu, comme ces prophètes qu'elle décrit, parce qu'elle met aussi d'elle, évidemment, là-dedans. C'est-à-dire que quand même, elle voit tellement que le monde est horrible qu'elle peut pas s'empêcher de le dire. Il y a un épisode très drôle où elle accepte ce que tout le monde lui demande, d'aller à Lourdes pour guérir de sa maladie. Elle ne veut pas y aller, elle trouve ça absolument épouvantable. L'idée même de Lourdes lui donne plutôt la nausée. Mais enfin bon, comme souvent avec sa mère, il y a une sorte d'arrangement entre les deux. Sa mère s'occupe d'elle quand même. Et donc, elle accepte et elle part à Lourdes avec d'autres gens. Et une fois qu'elle se retrouve à Lourdes, elle dit « J'étais la seule qui avait des béquilles en aluminium. » Ça les impressionnait énormément. Et elle explique que les béquilles, c'est un truc génial parce que ça permet de bousculer les gens et de passer devant, mais pas à Lourdes, parce que malheureusement, beaucoup de gens ont des béquilles, qu'on lui a ordonné de se baigner dans un bain absolument dégoûtant, où il y avait déjà des centaines de personnes qui s'étaient immergées, c'était sûrement plein de microbes, et ça l'a dégoûté au-delà de tout. C'est une image de Lourdes, de ces vendeurs de Bible d'ailleurs aussi, et de tout ce qu'on peut imaginer, qui n'est pas exactement apostolique et romaine. Hein.
Et c'est ce contre-pied, oui. Justement, quand oui. Vous parlez de l'humour noir et de la caricature, c'est ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle est politiquement incorrecte à un certain niveau, c'est-à-dire qu'elle retourne les situations, par exemple, les enfants ou les femmes au foyer, les jolies petites mariées, ou même les handicapés à un certain niveau. Elle nous montre, en fait, on passe de l'autre côté et elle part du principe que personne n'est bon parce qu'il suscite la pitié ou parce qu'il a...
Exactement, ça c'est une grande leçon. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Céline. C'est vraiment des enfants horribles, par exemple. Il y en a, mais d'extraordinaires. Et des adultes qui se font avoir par les enfants horribles, il y en a aussi d'extraordinaires. C'est-à-dire qu'elle est absolument... Elle a horreur de la mièvrerie, de tout ce qui peut être gnan-gnan. Et je sais pas, à la limite, elle a un côté Charlie. C'est vraiment... rien ne trouve grâce à ses yeux et certainement pas les conformismes quels qu'ils soient. Elle a cet esprit de 12 ans.
Mrs. Hopewell lui pardonnait cette attitude à cause de la jambe qui avait été arrachée par un coup de fusil dans un accident de chasse quand Joy avait 10 ans. C'était pénible pour une mère de songer que sa fille avait 32 ans maintenant et que depuis plus de 20 ans, elle n'avait qu'une jambe. Elle la considérait toujours comme une enfant. Sinon, elle eût souffert le martyr à la pensée que cette malheureuse grosse fille de 30 ans et quelques n'avait jamais fait un pas de danse, ni eu des distractions normales. Son vrai prénom était Joy. Mais dès qu'elle était devenue majeure et avait quitté la maison, elle l'avait fait changer légalement. Mrs. Hopewell était certaine qu'elle s'était creusé la tête nuit et jour jusqu'à ce qu'elle découvre le nom le plus laid de toutes les langues. Alors elle avait abandonné le joli nom de Joy sans en prévenir sa mère. Son prénom officiel était maintenant Hulga.
Maurice Coindreau, traducteur français de Flannery O'Connor.
J'aime me la représenter paré de toutes les qualités que je recherche chez mes semblables et que je trouve si rarement. Le courage dans l'adversité, une honnêteté foncière qui lui faisait haïr les imposteurs. Nulle illusion sur la vraie nature d'une humanité qu'elle estimait, à juste titre, plus ridicule encore que méchante. Et inévitablement, cette tendresse pour les animaux qui ne va point à l'encontre de l'histoire sainte, riche du plus beau des bestiaires. Supposez que l'on puisse frapper son œuvre comme le battant peut frapper une cloche, vous noteriez peut-être des sonorités qui vous sembleraient agressives, mais vous ne percevriez pas une seule dissonance.
Si on ne parle pas de Coindreau, la littérature américaine du XXe siècle en France, elle n'existe pas. Coindreau, c'est le traducteur, mais c'est le type, l'introducteur, le passeur qui amène Flannery O'Connor, qui amène Hemingway, qui amène Steinbeck, qui amène tous les grands Américains du XXe siècle. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, plusieurs prix Nobel. Mais donc, il va voir Gaston Gallimard et lui dit, écoutez, moi, j'ai là les voix de l'avenir du roman américain. Je vous propose qu'on traduise ces gens et qu'on les introduit. Et c'est ce qui va se passer. Coindreau est essentiel. Sans Coindreau, en effet, il n'y a pas tous ces auteurs.
C'est intéressant, cette mise en avant par le milieu de la critique littéraire française pour qu'ensuite les Américains se rendent compte, effectivement, de la grandeur des auteurs qui sont les leurs.
Mais oui, et ça ne s'arrête même pas aux auteurs majeurs comme Hemingway, Faulkner et autres. Ça va jusqu'à des auteurs un peu plus mineurs, mais quand même considérables. Les auteurs du roman noir américain, David Goodis, Jim Thompson, tous ces gens, aux États-Unis, n'existent plus au moment où la France les découvre, les met en avant, les met dans la lumière. Et là, les Américains se disent, mais tiens, c'est bizarre. pourquoi les Français font autant autour de Thompson, Goodis et autres. Et du coup, les reprennent et les rééditent. Et ils redécouvrent qu'ils ont une littérature absolument formidable, qu'ils avaient évidemment oublié, tous ces auteurs.
Elle ne le faisait jamais en présence de Mrs. Hopewell, qui en eût été offusquée. Mais si par hasard elle se rencontrait hors de la maison, elle disait quelque chose et ajoutait « Hulga » au bout. Alors la grosse Joy Hulga prenait un air mauvais et rougissait comme si on avait violé son intimité. Ce nom ne regardait qu'elle. Elle l'avait adopté d'abord parce qu'il choquait l'oreille. Puis elle avait été frappée par son pouvoir d'évocation. Hulga devenait l'horrible Vulcain suant à sa fournaise et vers qui sans doute la déesse devait accourir au moindre appel. Elle voyait en ce nom l'acte le plus noble et le plus créateur qu'elle eût accompli. L'une de ses plus grandes victoires, c'était que sa mère n'avait pu faire une Joy de sa personne. Mais la plus grande, c'était qu'elle-même, délibérément, s'était muée en Hulga. Néanmoins, le plaisir que prenait Mrs. Freeman à employer ce nom l'irritait. C'était comme si les petits yeux acérés de cette femme avaient pénétré assez loin par-delà son visage pour atteindre quelque réalité secrète. Quelque chose en elle semblait fasciner Mrs. Freeman. Un beau jour, Hulga découvrit que c'était sa jambe artificielle. Mrs. Freeman était friande de tout ce qui touchait aux maladies secrètes, aux malformations cachées, aux viols d'enfants. Parmi les maladies, les très longues ou les incurables avaient sa préférence. Hulga avait entendu sa mère relater à Mrs. Freeman les circonstances de l'accident de chasse. La jambe avait été littéralement arrachée, mais la petite fille n'avait perdu connaissance à aucun moment. Mrs. Freeman écoutait chaque fois comme si l'accident eût été tout frais.
Henry Connor, c'est un auteur qui oppose la ville et la campagne, qui oppose les générations les unes les autres. Et elle vit donc avec sa mère, Regina. Et donc c'est intéressant parce que ça nous questionne quand même sur le rôle de la femme. C'est-à-dire que sa mère passe son temps à lui dire qu'il faut qu'elle écrive un nouveau Autant en apporte le vent, qu'elle aurait pu se marier, qu'elle aurait pu être belle. Elle explique à tous les voisins effectivement que sa fille aurait pu être amenée à avoir une vie familiale avec des enfants, mais que le destin en a décidé autrement. Quelle est cette relation très particulière et ambiguë qu'elle a avec sa mère ? Parce qu'on a l'impression de sentir une légère honte en même temps qu'une certaine douceur vis-à-vis de cette femme.
Alors c'est une relation, vous avez raison, très, je dirais chaotique, mais larvée, et qui existe depuis l'enfance. C'est une mère, vous l'avez très bien décrite, qui est vraiment dans ses, si j'ose dire, préjugés de bonne catholique, notable blanche. Pour elle, c'est ça son monde. Elle a toujours été une mère de famille, d'abord, avant la ferme. Elle ne prend la ferme que parce qu'elle est veuve, en fait. Elle a perdu son mari. Mais avant, elle était vraiment femme au foyer, tout ce qu'il y a de plus classique à l'époque. Et c'est vrai que cet enfant, dès le départ, est très fantasque. Flannery O'Connor, elle est très espiègle, elle est très intelligente aussi. Je pense qu'elle était même un peu surdouée. Et cette mère ne la comprend pas.
Maman et moi, nous livrons à d'intéressantes discussions littéraires. En voici un échantillon concernant les livres que je venais de commander à la Modern Library. Elle. Ah, Moby Dick, j'ai souvent entendu parler de ça. Moi, on dit Moby Dick. Elle. Moby Dick, si tu veux. Et l'idiot. Ça te ressemble de commander un livre portant un nom pareil. De quoi s'agit-il ? Moi, d'un idiot.
Elle sait se mettre à côté d'elle-même pour s'observer avec sa mère Regina et lui balancer une vacherie. Et Regina d'ailleurs lui répond. Il y a une blague très drôle où elle dit « Si nous avions un chien, on l'appellerait toutes les deux Spot, mais au terme d'or en français. Mais pour ma mère, ça serait au premier degré et pour moi, ce serait pour moquer d'elle. »
Au professeur T.R. Spivey, 21 juin 1959. Je n'ai pas lu cet article de Partisan Review, ni les jeunes écrivains de la Beat Generation. Je n'imagine guère de tâches plus pénibles que de lire ce genre d'auteur. Mais ce qu'on écrit sur eux, et ce qu'ils ont à dire eux-mêmes, me porte à croire qu'il y a là beaucoup de bonne volonté mal employée et dévoyée. Il me paraît évident qu'une certaine révolte contre notre excès de matérialisme se faisait attendre depuis longtemps. Ces jeunes gens semblent avoir identifié une foule de choses qu'ils fuient à juste titre, mais il leur manque la discipline nécessaire. Ils se considèrent comme des espèces de saints, alors que la sainteté ne s'acquiert qu'au prix de sacrifices auxquels, d'après ce que je vois, ils ne sont absolument pas disposés. Certes, la grâce de Dieu souffle où elle veut, mais pour la recevoir, il faut commencer par s'oublier soi-même. Tant que ces marginaux se livreront à tous les plaisirs des sens et les revendiqueront, on ne peut les prendre que pour ce qu'ils sont, de faux mystiques. Comparé à Saint Jean de la Croix, ces pauvres imitateurs ne font pas le poids. Comme poète, ils ne me convainquent pas davantage, car ils sont trop occupés à se conduire en poète. Le poète authentique est un personnage anonyme. Alors que ces garçons veulent à toute force avoir une tête, un style de vie et même, semble-t-il, une odeur de poète.
Aucun cliché n'échappe à son fusil à lunettes. C'est en ça que c'est une écrivaine qu'il faut faire lire absolument. Alors surtout aux apprentis écrivains, ça c'est certain.
Ouais.
Et puis à tout le monde parce que ça donne du courage. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une femme, c'est une écrivaine qui donne un courage extraordinaire. C'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Mm. Et pour moi, il y a comme ça des écrivaines. Pour moi, Virginia Woolf fait exactement la même chose. Elle donne le courage de vivre, le courage d'observer, le courage de n'avoir rien à faire et le courage de faire face à sa vie comme elle est. Oh, I'll twine with flamingos and waving black hair, with the
roses so red and the lilies so fair. En fait, il y avait des gens qui venaient la voir à Andalusia, pas mal de ses lecteurs, mais surtout, elle n'était pas si isolée que ça parce qu'elle avait une correspondance extrêmement foisonnante avec d'autres auteurs, avec beaucoup de ses lecteurs. Elle répondait à tout le monde. Elle se rendait compte qu'elle était effectivement mal comprise de son public catholique, des critiques littéraires aussi qui ont été parfois très dures envers sa littérature. Mais elle répondait à tous, y compris à beaucoup d'illuminés qui lui écrivaient. Et elle a eu des correspondances avec notamment deux femmes. Une femme qui se fait appeler A dans la traduction française chez Gallimard, et parce qu'on a aussi toute la correspondance de Fanny O'Connor accessible en français, et qui est devenue une amie alors qu'elle ne l'avait jamais rencontrée, et une autre femme, Mariette Lee. Toutes deux, que ce soit A ou Mariette Lee, très très différentes de Flannery O'Connor, absolument pas catholiques au départ. L'une hyper féministe, passionnariat de la cause intégrationniste, l'autre en quête de spiritualité, mais pas du tout au départ ouverte sur le catholicisme. Elle va le devenir par Flannery O'Connor. Voilà, elle a des amitiés par correspondance. Elle a aussi des gens qui viennent la voir. Voilà, donc elle est isolée. Certes, mais pas tant que ça. Elle est reliée socialement, en tout cas.
Faulkner, par exemple, critiquait beaucoup la nouvelle, puisque pour lui, c'était quelque chose qui lui permettait en fait de vivre, principalement. Mmh. Mais pour lui, le roman était au-dessus de tout. Alors que Flannery O'Connor, justement, avait ce point de vue où elle était très humble et elle disait « Ben non, moi, la nouvelle, c'est quelque chose qui me satisfait pleinement. C'est quelque chose qui semble peut-être plus simple, mais qui a un rythme particulier, qui lui est propre. » Et on trouve justement cette idée... De vérité dans la simplicité chez
Flannery. Et puis d'intensité. Parce qu'il y a une intensité dans enfin, je sais pas, c'est du condensé, hein, c'est de l'élixir de vie. Chaque histoire de Flannery O'Connor pourrait donner lieu à un roman de 150 pages ou de 200 pages si elle le délayait. Mais il faut aussi se rappeler qu'elle est malade et que donc, elle a pas de temps à perdre.
Oui.
C'est rassemblé, c'est tendu, et c'est vraiment des visions.
Être édité, voilà ce qu'ils veulent. Et si possible, devenir un auteur à succès. Être écrivain, non écrire. Voir figurer leur nom en tête d'un ouvrage imprimé, quel qu'il soit. Apparemment, ils croient pouvoir y parvenir en apprenant des recettes et en s'informant des habitudes de travail, du marché du livre et des sujets susceptibles de plaire.
Beaucoup de rire et de vitalité pour résister à ce que notre monde a de banalisant, de dépersonnalisant en vérité. Donc cette solitude dont vous parlez, c'est aussi une solitude peuplée d'imaginaire. Or l'imagination est pas du tout favorisée par le monde contemporain. Où tout le monde fait les mêmes choses en même temps, part en vague, enfin je sais pas comment dire, va voir les mêmes choses, etc. Et donc ça, c'est l'objet. Elle dit une chose très drôle, elle dit « Le monde sera de plus en plus idiot. » Ça, c'est vraiment embêtant, sauf pour les écrivains qui auront de plus en plus de choses à raconter. Mais elle dit, alors là, on a quand même un problème, c'est qui y aura-t-il pour les lire ?
Le matin, lorsque Olga entrait dans la cuisine en clopinant, elle aurait pu marcher sans faire ce bruit affreux, mais elle le faisait parce qu'il répugnait à l'oreille. Mrs. Hopewell en était persuadée. Elle leur jetait un coup d'œil rapide et ne disait mot. Mrs. Hopewell avait son kimono rouge et les cheveux en bataille. Elle finissait son petit déjeuner, tandis que Mrs. Freeman, accoudée au réfrigérateur, laissait errer son regard sur la table. Olga se préparait ses œufs à la coque et les surveillait bras croisés, tournés vers le réchaud. Mrs. Hopewell l'observait avec une sorte de regard indirect qui ricochait de Mrs. Freeman à sa fille. Elle se disait que si Joy avait consenti à se surveiller un peu plus, elle ne serait pas si mal. Son visage était acceptable. Et un sourire aimable eût pu le mettre en valeur. Mrs. Hopewell affirmait que les personnes qui voyaient les choses sous leur beau côté étaient belles elles-mêmes, presque malgré elles. Chaque fois qu'elle regardait Joy de cette manière, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il aurait mieux valu qu'elle n'eût jamais passé sa thèse de doctorat. Ça ne lui avait pas procuré une occasion de plus de sortir dans le monde. Et maintenant, son diplôme en main, elle n'avait plus aucun prétexte pour quitter la maison. Mrs. Hopewell estimait que les filles avaient raison de faire des études, qu'ainsi elles prenaient du bon temps. Mais pour Joy, seul le travail avait compté. De toute manière, sa santé lui aurait interdit de repartir. Les médecins avaient informé Mrs. Hopewell que, même avec les plus grandes précautions, Joy ne pourrait vivre que jusqu'à 45 ans. Elle avait le cœur malade. Joy avait déclaré sans embâge que, sans son état de santé, elle aurait dit adieu pour toujours aux collines rouges et aux braves campagnards. Elle serait dans une université à faire des cours à des gens intelligents. Mrs. Hopewell, cela représentait très bien, tel un épouvantail s'adressant à d'autres épouvantails. Ici, elle tournait toute la journée avec une jupe de 6 ans d'âge et un chandail jaune orné d'un cow-boy à cheval. Elle trouvait cela drôle. Mrs. Hopewell trouvait ça stupide et y voyait la preuve qu'elle était restée une enfant. Elle avait une intelligence brillante, mais pas une once de bon sens. On eût dit qu'au fil des ans, elle ressemblait de moins en moins aux autres et de plus en plus à elle-même. Mal embouchée, bouffie de graisse et myope. Et elle disait des choses si étranges. N'avait-elle pas jeté un jour à sa propre mère, sans que rien le laissât prévoir, sans motif, en se levant brusquement au milieu du repas, le visage écarlate et la bouche à moitié pleine ? Femme, est-ce que tu regardes parfois en dedans de toi-même ? Y regardes-tu parfois pour voir ce que tu n'es pas ? Puis elle s'était écriée en se laissant choir sur sa chaise et en fixant son assiette. Mon Dieu, Malebranche avait raison. Nous ne sommes pas notre lumière. Nous ne sommes pas notre lumière. Mrs. Hopewell n'avait pas encore trouvé ce qui lui avait valu pareille algarade. Elle s'était contentée de faire remarquer, en espérant que Joy saisirait l'allusion, qu'un sourire n'avait jamais fait de mal à personne. Sa fille avait son doctorat en philosophie et Mrs. Hopewell en était toute désemparée. On pouvait dire « ma fille est infirmière » ou « ma fille est institutrice ». À la rigueur, « ma fille est ingénieure chimiste », mais non point « ma fille est philosophe ». Ça, c'était quelque chose qui avait disparu avec les Grecs et les Romains. Toute la journée, Joy restait vautrée dans un fauteuil, un livre à la main. Parfois, elle sortait se promener, mais elle n'aimait pas les chiens, les chats, les oiseaux, les fleurs, la nature, ni les jeunes gens. Elle regardait les hommes comme si ses narines avaient senti leur bêtise.
Je me porte bien. En dépit de quelques ennuis. Ma maladie se nomme lupus. Je prends une drogue baptisée ACTH et je m'arrange pour vivre avec les deux. Le lupus appartient à la famille des rhumatismes. Il va, il vient. Quand il avance, je recule. Quand il s'éloigne, je ressurgis. Mon père a connu cela, voici 12 ou 15 ans, mais à l'époque, on ne pouvait rien faire, sinon appeler le croque-mort. Maintenant, l'ACTH contrôle le mal. J'ai assez d'énergie pour écrire et comme tout ce que j'ai à faire ici-bas, je peux, en clignant de l'œil, considérer que c'est là une bénédiction. Vous finissez par y regarder de très près lorsque quelque chose vous est donné à la portion congrue. C'est du moins ce que je me dis.
La maladie quand même est très très difficile à vivre pour elle. C'est une maladie qui est douloureuse, invalidante et qui l'empêche d'écrire.
Et qui l'empêche aussi à un certain niveau d'aimer.
Et d'aimer, c'est vrai, parce qu'elle ne sort pas de ce lieu. Alors on ne lui connaît pas de véritable amoureux, mais elle est tombée amoureuse de plusieurs hommes, on en connaît deux, et l'un surtout, c'était un vendeur de livres de chez Harcourt, son propre éditeur, qui était admirateur de son œuvre et qui vient la voir pour sans doute peut-être parler aussi de la commercialisation de ses ouvrages, mais surtout parce que je crois qu'il aime vraiment ce qu'elle écrit. Et puis il revient à plusieurs reprises la voir. Donc cette amitié pour lui est un peu une amitié amoureuse pour elle. Et un jour il l'embrasse. Mais il l'embrasse vraiment un baiser volé. Et puis après il part faire le tour d'Europe. Et il continue à lui écrire. Donc le malentendu, si j'ose dire, peut un peu perdurer. Et puis un jour elle reçoit une lettre et là c'est un faire-part de mariage parce qu'il a trouvé une femme en Europe et il s'est marié. Et là c'est très très dur pour elle parce que l'absence, elle a certainement fantasmé un peu cette relation et cet homme. Et là voir le carton de mariage, c'est difficile pour elle, mais elle le sublime une fois de plus, ce qui est noir, ce qui est difficile parce que c'est vraiment un coup dur pour elle. Elle le sublime dans une nouvelle extraordinaire, terrible, horrible, où elle parle effectivement
d'une jeune boiteuse.
Voilà, jeune boiteuse et le vendeur de Bible. Donc elle va sublimer en fait ce qui lui arrive dans quelque chose de beaucoup plus imaginaire, d'assez truculent, même si c'est une nouvelle assez dure, mais en même temps qui est drôle et qui est très jubilatoire aussi. Donc vous voyez, elle, toujours finalement dans sa vie, comme dans son œuvre, elle s'empare du mal pour le dépasser et elle nous parle de rédemption en fait, elle nous parle de ça, de résurrection. Le pan, c'est aussi ça, il perd ses plumes en été et elle repousse après Noël. Donc c'est aussi l'idée de la résurrection.
Donc du second degré, jamais d'aigreur.
Absolument.
Elle poussa un petit cri d'effroi, mais il la renversa et se remit à l'embrasser. Sans sa jambe, elle se sentait entièrement à sa merci. Et son esprit semblait s'être définitivement arrêté de penser pour se livrer à quelque autre fonction où il n'était guère efficace. Sur son visage, des émotions tumultueuses se succédaient à un rythme échevelé. Parfois, le garçon dont les yeux étaient acérés comme des flèches d'acier tournait la tête et regardait la jambe. Enfin, elle le repoussa d'elle. « Maintenant, remettez-moi ma jambe, » dit-elle. « Attendez, » répondit-il. Il se pencha de l'autre côté, tira la valise à lui, puis l'ouvrit. Elle avait une doublure bleu pâle et mouchetée et ne contenait que deux bibles. Il en prit une et en ouvrit la couverture. Elle était creuse et contenait une petite bouteille de whisky, un paquet de cartes et une petite boîte avec des mots imprimés sur le couvercle. Il posa les trois objets devant elle, les aligna à intervalles réguliers, comme des offrandes devant l'autel d'une déesse. Il lui mit la boîte bleue dans la main. « Produit à n'employer que pour prévenir les maladies, » lut-elle. Et elle laissa tomber la boîte.
Jean de Saint-Chéron, écrivain.
La grâce de l'écriture qu'elle a reçue, elle l'a mise au service, justement, donc, de ce réalisme chrétien, qui est une manière d'explorer la façon dont se déploie la liberté de l'homme dans un monde qui est frappé par le péché.
Ces personnages sont libres pour vous ?
Ah, totalement. Et d'ailleurs, elle le précise. Alors, la difficulté avec Flannery O'Connor, c'est que ces textes sont d'une puissance hors norme, mais leur lecture est parfois difficile, déroutante. Dans une nouvelle comme « Révélation », par exemple, qui se situe dans le recueil « Mon mal vient de plus loin », on a du mal à trancher arrivé à la toute fin de la nouvelle, à la dernière ligne, est-ce que cette Mrs. Turpin fait partie des damnés, justement? Est-ce que c'est une ignoble pécheresse, un pourceau de Satan, comme l'en accuse une jeune femme qu'elle croise dans l'antichambre d'un médecin? Voilà, c'est difficile. Flannery O'Connor laisse en général à son lecteur un rôle, un travail de discernement, fait qu'on est chacun partie prenante du texte, d'une certaine manière, quand on ouvre Flannery O'Connor. En cela, elle me fait un peu penser à Bernanos. Beaucoup de pages de Bernanos qui nous laissent pantois. Et Flannery O'Connor, c'est un peu ça. Mais pourquoi je peux me permettre de dire malgré tout que ces personnages sont parfaitement libres? C'est parce qu'elle le dit dans sa correspondance.
Puisque Bernanos, effectivement, on a cette idée du diable, on a deux idées du diable. On a le maquignon, donc ce qui est un diable de chair, mais on a aussi Monsieur Wynne. Il est comment le diable chez Flannery O'Connor? Le mal, il s'incarne comment dans sa littérature?
En fait, il est diffus, parce que l'œuvre de Satan est partout, en ce bas monde. Et c'est en cela qu'elle est très catholique, d'ailleurs. Elle ne distingue pas entre les élus et les damnés. Encore une fois, il n'y aurait pas les purs et les impurs, les bons et les mauvais. C'est vraiment le bon grain et l'ivraie de l'Évangile. C'est-à-dire que les deux croissent de façon mêlée. Et ce n'est pas à nous, pauvres mortels, de distinguer entre les bons et les mauvais. C'est au Seigneur de toute éternité de faire le tri à la fin du monde. La moisson ultime qu'on appelle l'apocalypse ou la parousie. Et en cela, ouais, Flannery O'Connor, c'est pour ça que je crois que sa littérature relève vraiment du réalisme, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Alors, ce réalisme, il est matiné de ce grotesque Southern Gothic, on l'appelle comme on veut, avec des personnages hors normes qu'on a l'impression de jamais avoir croisé dans sa propre vie, le prédicateur de la sagesse dans le sang, etc. Effectivement, c'est des personnages romanesques spectaculaire, très étrange. Néanmoins, il y a aussi un art des petites gens, de la vie de tous les jours, des gestes du quotidien chez Flannery O'Connor, gestes du quotidien qui sont marqués en permanence par cet affrontement du bien et du mal. Et on voit des petits avares minables nous apparaître comme des monstrueux, des satans monstrueux quasiment, certaines de ses nouvelles, parce qu'elle a ce talent extraordinaire de nous apprendre à lire le réel, celui qui est sous nos yeux dans la vie de tous les jours, hein, nous-mêmes, mais à faire ressurgir, à mettre en valeur, à souligner le caractère bon ou mauvais, c'est-à-dire conforme à l'amour de Dieu, à la charité, ou au contraire esclave de l'orgueil ou de nos passions égoïstes, dans la vie de chaque instant.
Le jeune homme débouchait la bouteille. Il s'arrêta et avec un sourire lui montra le paquet de cartes. Ce n'était pas un jeu ordinaire, car au dos de chaque carte, il y avait une gravure pornographique. Une petite gorgée, proposa-t-il, en lui tendant la bouteille. Il la tenait devant elle, mais comme hypnotisée, elle ne fit pas le moindre geste. Alors elle lui parla d'une voix implorante. « N'êtes-vous pas, murmura-t-elle, n'êtes-vous pas tout bonnement un brave paysan ?» Le garçon redressa la tête. Il avait l'air de soupçonner que c'était une insulte. « Ouais, » dit-il les lèvres plissées, « mais c'est pas ce qui me donne des complexes. Je vous vaux bien, d'un bout de l'année à l'autre. »« Rendez-moi ma jambe, » dit-elle. Du pied, il l'éloigna d'Olga. « Allons-y maintenant, on va s'amuser ferme, » dit-il d'une voix câline. « On se connaît pas trop bien encore. » « Donnez-moi ma jambe, » cria-t-elle en se penchant brusquement pour la saisir. Mais sans peine, il rejeta Olga sur la botte de foin. « Qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup ?» demanda-t-il d'un air méchant. Il reboucha la bouteille et la remit prestement dans la Bible. « Il y a un instant, vous disiez que vous croyiez en rien. Je pensais que vous étiez une fille bien. » Elle était rouge de colère. « Vous êtes chrétien, » lui jeta-t-elle avec mépris. « Un joli chrétien. » Vous êtes comme tous les autres. Vous dites une chose et vous en faites une autre. Vous êtes un vrai chrétien, vous. La bouche du garçon se crispa.
On a aussi la présence de paysages qui sont des paysages qui relèvent de l'Ancien Testament, un petit peu dans ces nouvelles. C'est un petit peu Abel et Caïn à un certain niveau.
Oui, oui, tout à fait. Job aussi, hein, par exemple, le livre de Job est en toile de fond dans beaucoup de textes de Flannery O'Connor. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le caractère incompréhensible du monde et de notre vie, ce qui nous arrive. Ça, c'est typiquement le cas de Job. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Il lui est arrivé des malheurs abominables alors qu'il, lui, n'a rien fait d'abominable. C'est qu'il y a aussi une absurdité du mal. Et qu'en fait, le mal peut frapper des innocents qui n'ont rien fait à personne et rien demandé. Et ça, on le voit évidemment aussi dans les nouvelles de Flannery O'Connor.
La caractéristique vraiment de ces romans comme de ces nouvelles, c'est vraiment d'écrire avec la plus grande crudité et le plus grand réalisme ce qu'elle a sous les yeux, donc la violence du Vieux Sud, parce que c'est violent le Vieux Sud, tout particulièrement à cette époque-là, et puis utiliser la violence et ce qu'on appelle le grotesque du Vieux Sud, c'est-à-dire ce côté burlesque, très parodique, notamment dans la foi, mais pour plein d'autres aspects, utiliser tout ça pour électrocuter, si j'ose dire, le lecteur, pour l'intéresser. Et de cette violence, souvent à la fin des nouvelles ou à la fin des romans, faire surgir la révélation divine. C'est-à-dire que ces personnages sont des anti-héros, ce sont des boiteux, des illuminés, des prêcheurs fous, des voleurs, des violeurs, des prostituées. Enfin, c'est toujours... et c'est pour ça qu'elle choque beaucoup son lectorat catholique.
Ou des mères de famille.
Ou des mères de famille, voilà, qui se veulent parfaites et qui ne le sont pas, etc., etc. Et qui sont toujours dans des préjugés incroyables. Et finalement, à la faveur d'un événement très violent qui leur arrive, ça peut être un meurtre, ça peut être plein d'autres choses, vont avoir une révélation, se rendre compte que la vie est plus large que la vie matérielle, qu'eux-mêmes s'inscrivent dans ce qu'on appelle la vie majuscule, une vie spirituelle, la vie en Dieu. Et c'est une révélation qui va apparaître en filigrane, comme ça, à la fin des nouvelles, et qui va nous inviter, nous, lecteurs aussi, à ouvrir notre regard. Et son ambition, finalement, c'était de dévoiler une part d'invisible à nos yeux, peut-être trop matérialiste, trop rationaliste. Donc elle prêche pas, mais par la plume, elle se veut le bras de Dieu par la littérature. C'est sa mission, en fait.
Au père John McCall, 16 janvier 1956. Je crois avoir lu toutes les œuvres traduites de Blois, Bernanos et Mauriac. Pour un romancier catholique, il n'existe guère de valeur sûre susceptible de l'influencer, à l'exception de ces trois-là, et de Green. Mais d'une certaine façon, on retire moins de leur lecture que de celle d'un Hemingway, chez qui l'on devine une soif de cette plénitude que le catholicisme apporte à la vie, ou d'un Joyce qui ne parvient pas à se débarrasser de la religion malgré tous ses efforts. Au fond, peut-être est-ce un moyen de reconnaître le Saint-Esprit dans une œuvre. Il préfère se cacher.
Je parlais il y a une minute de cette Mrs. Turpin dans la nouvelle Révélation, vraiment dont je recommande la lecture à quiconque. C'est un texte prodigieux, il y en a bien d'autres, hein, des nouvelles sur le salut chez Flannery O'Connor. Mais là encore, on peut tous, d'une certaine manière, alors que le personnage nous apparaît de plus en plus monstrueux au fil de la nouvelle, alors que c'est juste une bonne femme qui attend de passer son tour dans la salle d'attente d'un médecin. Mais Flannery O'Connor nous donne accès à son fort intérieur, et donc alors qu'elle se conduit de manière plutôt délicate avec son entourage, en fait, elle rumine des pensées abominables, méprisantes pour tout l'entourage. Elle n'a de cesse de rendre grâce au Seigneur, d'être comme si, plutôt que comme tous ces minables qui l'entourent, etc. Mais en même temps, on est chacun, je pense, un peu Mrs. Turpin. C'est ça le génie de Flannery O'Connor, c'est qu'elle nous dépeint un personnage monstrueux, et puis on finit par s'y reconnaître soi-même.
Donc derrière le négatif du texte, elle nous montre le positif et la lumière et la voie à suivre.
Oui, parce qu'en tant que chrétienne, le mal nourrit la substance du bien, si j'ose dire. C'est parce que le mal détruit qu'il faut construire plus fort pour dépasser ce mal. C'est très christique. Hein. Elle est catholique, mais sa littérature est tout sauf édifiante. Sa littérature est très crue, elle est très réaliste. Au contraire, c'est au sein du réel violent et cru qu'elle fait surgir la grâce divine, Flannery O'Connor. Donc ça, sa mère, elle ne comprend pas du tout. Elle est habituée, sa mère, à une littérature catholique hyper édifiante, voire à des grands romans sudistes, Autant en emporte le vent, qui décrivent au fond sa façon de voir le monde, très manichéenne, encore une fois. Donc Flannery O'Connor n'est pas comprise par sa mère. Elle l'était beaucoup plus par son père, qui est mort alors qu'elle avait 16 ans, mais qui déjà avait vu dans ses petites fabulettes d'enfant, dans ses dessins, parce qu'elle dessinait énormément Flannery O'Connor quand elle était jeune, dans son humour, hein, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, elle l'a gardé jusqu'au bout, dans cet humour un peu sarcastique, mais jamais méchant, ce regard ironique qu'elle porte sur la vie, il avait reconnu en elle voilà, la patte d'un écrivain que lui-même aurait voulu être.
Il ferma la valise d'un coup sec, la saisit, la jeta par la trappe, puis s'y engouffra. Il s'arrêta de descendre, la tête au ras de la trappe, et fixa sur elle un regard qui n'avait plus rien d'admiratif. « Je me suis procuré comme ça un tas de choses intéressantes, » dit-il. « Une fois, il y a une femme qui m'a laissé son œil de verre. Et c'est pas la peine de croire que vous me mettrez la main dessus, parce que je m'appelle pas Pointer. » Dans toutes les maisons où que je vais, je change de nom et je reste jamais longtemps. Je vais vous dire autre chose, Oulga. Il était visible qu'il ne faisait pas grand cas de ce nom. Vous n'êtes pas très maligne. Moi, c'est depuis que je suis né que je crois en rien. Le chapeau brun biscotte disparut dans le trou et Oulga demeura seule, assise dans la paille. Lorsqu'elle tourna son visage tourmenté vers l'ouverture de la grange, elle aperçut une silhouette bleue qui progressait efficacement à la surface du lac aux vagues vertes. Mrs. Hopewell et Mrs. Freeman, qui arrachaient des oignons derrière la maison, le virent un peu plus tard sortir du bois et traverser le pré en direction de la grande route. « On dirait que c'est le garçon si gentil et si ennuyeux qui a essayé de me vendre une Bible hier, » dit Mrs. Hopewell en plissant les yeux. « Il a dû aller en vendre aux nègres de l'autre ferme. » « Il était si naïf, » dit-elle. « Mais je crois que le monde ne s'emporterait que mieux si nous étions tous naïfs comme ce jeune homme. » Le regard de Mrs. Freeman s'orienta dans la direction de la silhouette et la découvrit juste avant qu'elle disparût au creux de la colline. Puis, elle reporta son attention sur l'oignon à l'écœurante senteur qu'elle s'évertuait à arracher de terre. « Il y en a qui peuvent pas arriver à être naïfs comme ça, » dit-elle. « Moi, je sais bien que j'ai jamais pu. »
Flannery O'Connor, la part du diable. Merci à Geneviève Brisac, Cécilia Duterre, Marie-Laure Albi, Bruno Corti, Jean de Saint-Chéron. Lecture par Claude Perron, Laurent Lederer, Yves Delafoy, chargé de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin et Christine Bernard, Flannery O'Connor, La part du diable, prise de son Florent Layani, mixage Valérie Lavalard, réalisation Gaël Gillon, une émission de Céline Laurence. This prisoner here before you is a social enemy, a lady of the evening, and you know the penalty. Her eyes reflect the nightlife, her cheeks, they're red with paint. But I knew her mother, gentlemen. Why, her mother was a saint. Now I know that she's not like her, and yet she might have been, if it hadn't been for petting parties, cigarettes and gin. We took the nightlife off the streets and brought into our own homes. While girls beat time with lipstick and the shrieks of saxophones, we opened up the underworld to the ones we love so well. So tell me, gentlemen, is it right to send her to a cell? If she drinks, why, you taught her, and if she smokes, you showed her how. So, gentlemen, do you think it's right to go and condemn her now?
And when you're in that jury room, just remember there and then that for every fallen woman, why, there's 100 fallen men. And before you render a verdict on what this girl has done, just remember there's a man to blame, and that man might be your son. Now, gentlemen, that's my story. My testimony stands. This girl is my own daughter, and the case is in your hands. Those Broadway roses and frivolous sounds had too many parties and too many pounds.